Shema Israël, Audi Israël, Écoute Israël, Ensun Israël, Escute Israël.
Monseigneur Marc Ayé, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron.
Monseigneur Marc Ayé, bonjour.
Bonjour.
Alexandre Aguerre, bonjour.
Bonjour.
Bonne année à tous, à tous nos auditeurs.
Bonne année. Urte Berrion.
Bona Anada aussi pour les Béarnais.
Voilà,
puisque nous sommes dans cette émission diffusée sur Radio La Pourdie et Radio Présence, où nous abordons avec vous, Monseigneur Ayé, les sujets d'actualité qui concernent l'Église et notre diocèse. Un petit mot tout d'abord sur cette fin d'année qui, pour vous, a été un moment peut-être un peu difficile, puisque votre papa est décédé dans la nuit du 13 décembre. Il allait fêter ses 100 ans le 25 janvier prochain. Vous avez eu beaucoup de messages de soutien, je crois.
Oui, ça, je remercie d'ailleurs tous ceux qui ont pris part à ma peine. Évidemment, perdre son père, c'est toujours une épreuve, mais il faut quand même reconnaître qu'il allait avoir 100 ans. Donc il a bien vécu, sa vie a été longue, et il est parti de manière très paisible dans son sommeil, sans nous prévenir. C'est évidemment ce qu'on peut regretter, mais j'ai eu l'occasion, évidemment, dans ma foi, de lui parler autrement que physiquement désormais. Et il est parti entouré de l'affection des siens, donc on ne peut pas dire que ce soit pour lui dramatique, et même si c'est perdre son père, c'est de se retrouver désormais orphelin, mais à 66 ans, c'est quand même pas extraordinaire. Et donc d'être maintenant en première ligne.
Voilà, en tout cas, les diocésains ont été en union de prière avec vous.
J'ai beaucoup senti ça.
Une première partie de cette émission, ce sera sur l'Église universelle avec différents thèmes et notamment la semaine de prière pour l'unité des chrétiens puisqu'elle commence le 18 janvier. Le thème cette année, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même, donc thème du bon samaritain. C'est vrai que c'est d'actualité aujourd'hui.
Tout à fait, et c'est là où c'est très important de bien comprendre que l'unité, si je puis dire, entre ces deux premiers commandements, hein, comme Jésus le dit dans l'Évangile, le double commandement de l'amour, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est ce qui résume la loi et les prophètes. Et c'est très important de comprendre en effet que malgré ce commandement de l'amour du prochain, qui est si bien illustré par Jésus dans la parabole du bon samaritain, en effet, qui est le thème de cette semaine de prière pour l'unité, malgré cette pétition de principe de s'aimer les uns les autres au-delà de nos différences, on voit bien que c'est extrêmement difficile à vivre. La preuve, c'est que le monde est déchiré, pas seulement de manière planétaire, hein, comme on le voit dans ce conflit mondial qui est en train de naître, hein, ici ou là, comme dit le pape François, mais aussi autour de nous, dans nos propres communautés, dans nos familles. Et c'est là où il faut que nous comprenions que l'amour du prochain n'est possible que si nous sommes vraiment dans l'amour de Dieu. Un amour authentique de Dieu, évidemment, pas seulement une pétition encore aussi de principe. Et c'est lui, c'est l'amour de Dieu qui donne sa mesure, et sa finalité, sa possibilité à l'amour du prochain de manière universelle.
Prier pour l'unité des chrétiens, alors que c'est déjà difficile entre catholiques, c'est une gageure quand même. Pourtant, c'est ce que le Christ a voulu avant de nous quitter.
Oui, et on voit bien que la parole du Samaritain, il faut bien la comprendre. Souvent, on la comprend d'abord, évidemment, comme une invitation à aimer son prochain, et d'ailleurs d'une manière nouvelle, parce que Jésus renverse la perspective en disant « Qui est le prochain de l'homme qui est tombé qui a été laissé à demi-mort sur le bord du chemin ?» Et alors qu'on s'attend à dire « Mon prochain, c'est le pauvre homme qui est là ». Non, « Qui est le prochain de celui qui ?» Ça veut dire que aimer son prochain, c'est pas seulement aimer celui qui est à côté de moi, de manière statique, qui me ressemble, qui a ma sensibilité, qui a mes idées, ou ma foi, ou mon bagage culturel, mais c'est se rendre proche de l'autre, d'autant plus qu'il est loin. Et en fait, il faut comprendre avec les pères de l'Église la parabole du Samaritain comme une explication de l'histoire du salut. L'homme à demi mort sur le bord du chemin, c'est l'homme blessé par le péché, par le péché originel. Le lévite et le prêtre de l'ancienne alliance qui passe à côté et qui le voit et qui passe son chemin, c'est la loi ancienne qui ne peut pas justifier, qui ne peut pas sauver. Et le bon samaritain, c'est le Christ lui-même qui vient de si loin, qui est étranger à nous, puisqu'il est Dieu lui-même, et qui vient, qui se rend proche de ce Samaritain, d'autant plus que lui est juif, donc on comprend bien ce que Jésus veut dire, et il peut le faire parce qu'il est Dieu lui-même qui vient au secours de l'homme. Et c'est pourquoi nous avons besoin de la grâce de Dieu pour aimer vraiment notre prochain.
Vous allez prêcher à Mgr Marcaillier dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, le jeudi 18 janvier à 19h au temple de Bayonne.
Voilà, dans le cadre d'un échange de chaires. Je crois que c'est important puisque je suis disponible cette année à Bayonne, donc je suis très heureux de pouvoir aller prêcher sur ce thème avec nos frères séparés, en particulier de la réforme protestante.
Alors, en ce début d'année, on ne peut pas ne pas parler de la situation en Terre Sainte. L'œuvre d'Orient a publié un communiqué assez alarmiste au moment de Noël par rapport notamment à ce que vivent les chrétiens de la paroisse de Gaza. Est-ce que vous avez des nouvelles et...
Pas de nouvelles fraîches, si je puis dire. Je sais seulement que les chrétiens, en effet, sont rassemblés dans le même lieu, qui est une paroisse plutôt latine, me semble-t-il, mais enfin, toutes les confessions sont rassemblées là. Les communautés religieuses avec lesquelles nous sommes en lien, en particulier les servantes du Seigneur et de la Vierge Matara, qui sont présentes dans notre diocèse, sont en effet toujours là. Je sais qu'il leur manque quand même, ils sont dans une grande précarité, il leur manque de l'eau, de l'électricité. Ils sont évidemment à la merci de bombes qui peuvent tomber sur leur tête. Il y a eu d'ailleurs déjà des effets collatéraux dans ce domaine. J'ai su aussi qu'au tout début de cette offensive d'Israël, le pape arrivait à téléphoner au curé de la paroisse tous les jours. Donc c'est quand même assez notable, et je crois qu'encore aujourd'hui, il arrive à les joindre de temps en temps, pour les encourager en tout cas, et pour leur dire qu'on ne les oublie pas dans notre prière, et c'est vrai que l'œuvre d'Orient, l'AED internationale, l'œuvre de Malte, les chevaliers du Saint-Sépulcre se mobilisent aussi pour essayer de les aider matériellement.
Le 18 décembre dernier, on en a beaucoup parlé déjà, le dicaster pour la doctrine de la foi du Vatican a publié une déclaration qui autorise les bénédictions de couples de même sexe et des couples divorcés, remariés, les couples dits irréguliers. Vous avez publié une note à ce sujet qui a fait du bruit, puisque vous émettez des réserves, vous posez des questions en tout cas par rapport à cette déclaration et vous appelez les prêtres à bénir les personnes mais individuellement. Alors pourquoi avez-vous eu besoin d'écrire cette note ?
Oui, cette déclaration Fiducia Supplicans a été publiée par le dicaster le 18 décembre. Moi c'est vrai que j'étais un peu occupé par les obsèques de mon père et en même temps j'ai entendu cette note d'abord par les médias avant de pouvoir la lire elle-même et je me suis rendu compte quand même dans les jours qui ont précédé la publication de ma propre note sur cette déclaration, qu'elle avait fait grand bruit, cette déclaration.
Notamment en Afrique.
Vous avez été quand même le premier évêque en France à réagir publiquement
oui,
par une note.
D'accord. Mais pour commencer, j'ai surtout été impressionné d'une part par la réprobation de cette note dans de nombreux endroits de l'Église catholique quand même, en Afrique d'une manière assez massive, par des conférences épiscopales entières, mais aussi en Europe de l'Est, hein, la Hongrie, l'Ukraine, la Pologne, le Kazakhstan, et aussi en Inde, en Asie, et aussi de nombreux évêques isolés hein, dans tous les continents. Et donc j'étais assez frappé d'abord de cette réaction un peu inédite. Et ensuite, j'ai été frappé aussi par la manière dont le monde a accueilli cette déclaration, et en particulier, on va dire, les lobbies LGBTQI+, qui ont salué cette déclaration comme une victoire par rapport à leur revendication que les relations homosexuelles soient reconnues par l'Église.
Oui, ils l'ont pris comme une approbation.
C'est ça. Alors que la déclaration elle-même apporte beaucoup de nuances et de restrictions et prend beaucoup de précautions, en tout cas restrictives, par rapport à tout ça. Donc ça veut dire qu'il a été, par les pros et les contras, si je puis dire, reçu quand même par une approbation de ce qui constitue la relation d'un couple en situation irrégulière ou dit de même sexe, car en effet, ce n'est pas seulement les couples de même sexe dont il s'agit dans cette déclaration, même si le focus a été largement mis sur cet aspect. Et j'ai aussi entendu beaucoup de blessures et de souffrances de la part de prêtres et de fidèles dans le diocèse, mais aussi en dehors du diocèse, qui étaient un peu dans l'incompréhension, en se disant, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les choses changent? Il faut peut-être savoir qu'historiquement, la question n'est pas nouvelle. Elle était souvent posée. Peut-on bénir des couples homosexuels? Et la question avait déjà été adressée, comme vous le savez, à la même congrégation, qui s'appelle maintenant le Dicaster pour la doctrine de la foi, alors que c'était le cardinal Ladaria qui en était le préfet il y avait 2 ans.
Hein, oui, la réponse avait été négative.
Et elle avait été négative. Avec
ce qui est étonnant d'ailleurs, est-ce que
avec l'approbation
on peut changer
du pape
comme
aussi.
Ça
voilà, c'est ça. Donc c'est vrai que c'était assez étonnant et ça supposait de relire ce texte avec beaucoup d'attention, ce que j'ai voulu faire, comme je le dis, pour à la fois accueillir cette déclaration dans un esprit de communion, évidemment, avec le Saint-Siège apostolique, car vous remarquez bien en lisant ma lettre que je ne suis pas du tout dans une opposition frontale, hein, comme on a entendu dans d'autres déclarations qui ont été faites depuis.
Et à la fin, vous invitez quand même à demander
des clarifications en posant des questions. Oui. Voilà. Et finalement, par mesure de prudence, invitant les prêtres pour l'heure, étant donné les ambiguïtés et les confusions que le texte, la déclaration veut éviter, mais qui sont évidentes quand même autour de nous, eh bien pour l'instant, comme d'ailleurs le cardinal Fernandez le consent dans la mise au point qu'il a essayé de faire quelques jours plus tard, où il consent qu'on puisse mettre du temps à mettre en œuvre cette déclaration pour des raisons pastorales dont les évêques sont les seuls juges. Hein, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai invité plutôt à la prudence et en essayant de prendre le meilleur de cette déclaration qui est de rendre proche ce Dieu d'amour et de miséricorde de toutes les situations périphériques, comme dit souvent le pape François, donc par un accueil des plus bienveillants, sans aucun jugement, sans condamnation. Ensuite, j'invite à un dialogue pastoral qui me semble pas assez présent, c'est vrai, dans cette déclaration Fiducia Supplicans, en n'ayant pas peur aussi de dire la vérité hein, sur les situations, parce que la déclaration précise en effet que ça ne valide pas tout, hein, que de donner une bénédiction. Et enfin de dire pour l'heure, je pense, par mesure de prudence, de bénir individuellement si la personne le demande, en exhortant à la conversion selon la parole de Jésus dans l'Évangile, convertissez-vous et croyez à l'Évangile, et à demander le secours de Dieu qui ne peut pas être refusé à tous ceux qui veulent conformer leur vie graduellement hein, à la volonté du Seigneur.
Quand on demande à des curés s'ils reçoivent souvent ce genre de demande, ils répondent quand même que ce n'est pas très souvent qu'on leur demande.
Ce n'est pas fréquent. Alors, je pense, si vous voulez, je voudrais juste ajouter ceci. Comme vous le savez, c'est une demande qui est surtout formulée en Europe occidentale, aux États-Unis parfois aussi. Qui a été un des chevaux de bataille du synode pour l'Église d'Allemagne en particulier, dans son chemin synodal, et qui était à l'ordre du jour de l'Assemblée synodale du mois d'octobre dernier. Il se trouve que dans le rapport du synode, il n'est plus question de cette bénédiction des unions homosexuelles, et on a l'impression, même ça a été dit, que ça a été reporté à l'Assemblée synodale du mois d'octobre 2024. Je sais par ceux qui ont participé au synode et qui nous ont rendu compte à l'Assemblée plénière dernière que, en fait, les Allemands qui auraient voulu mettre ça à l'ordre du jour ont été obligés un petit peu de baisser la garde parce que les épiscopats africains se sont levés contre en disant « mais c'est des préoccupations qui sont celles de l'Occident, de l'Europe, mais nous, c'est pas la première préoccupation pastorale » et c'est pourquoi on sent qu'il y a eu un recentrage du synode sur la mission d'annoncer l'Évangile, donc dans la nature missionnaire de l'Église.
Alors, le 6 janvier dernier, le cardinal Sarah, dans son message de Noël, a parlé quand même d'hérésie par rapport à cette décision, oui. Même s'il dit qu'il n'est pas en opposition avec le pape, mais bon, quand même, il dit que c'est une décision qui...
Oui, il a pris le ton des évêques africains, aussi du cardinal Müller, qui a été lui-même préfet de la congrégation. Donc, moi, je n'ai pas du tout voulu me situer dans ce...
Vous avez été plus soft, on
peut dire, oui, ça comme ça. C'est sûr. Moi, je n'ai pas voulu. J'ai simplement essayé de comprendre en posant des questions et en essayant de dire, n'empêche que c'est compris comme. Donc, qu'est-ce qui pourrait être clarifié? Et nous, en attendant, voilà ce qu'on peut dire en rappelant la tradition de l'Église sur la doctrine du mariage, qui est d'ailleurs restée inchangée, d'après même la déclaration Fiducia Supplicans. Je note que cette note a été bien reçue par mes confrères, puisque j'ai quand même un certain nombre important de confrères de j'allais dire de toute sensibilité, qui m'ont écrit pour me remercier hein, de ce texte. Il y a même un évêque qui m'a dit que ça l'aidera beaucoup dans son propre diocèse. Et ensuite, je vois que les évêques de Bretagne sont allés un peu dans ce sens, puisqu'ils concluent à la même disposition pratique que moi. Voilà. Donc je pense que cette note a été quand même bien reçue aussi. J'ai reçu énormément de témoignages de prêtres et de fidèles du diocèse et de l'extérieur du diocèse, qui étaient contents non seulement parce que ça clarifiait les choses, mais en même temps parce que ça les apaisait. Parce que j'ai senti aussi que dans certains milieux ecclésiaux, il y a eu un peu de colère. Et donc, je crois que ça a eu aussi un effet d'apaiser ces colères qui ne sont jamais bonnes conseillères.
Vous n'avez pas une nouvelle du Vatican
non,
à ce
pas
sujet.
De nouvelle du Vatican. Non.
Nous vous retrouvons dans quelques instants. Nous allons parler des sujets de société. À tout de suite.
Radio Lapordi.
Plusieurs sujets de société font l'actualité en ce moment, sujets sur lesquels l'Église a son mot à dire, puisqu'ils touchent à la dignité humaine, notamment l'inscription de l'avortement dans la Constitution. Alors ce projet de loi qui vise à inscrire la liberté d'avorter dans la Constitution est en cours de vote à l'Assemblée puis au Sénat. J'imagine que c'est quelque chose qui vous inquiète, bien sûr.
Oui, puis qui inquiète pas seulement l'évêque que je suis, mais comme vous savez, la Conférence des évêques de France, qui cette année, par la voix de son vice-président, Mgr Jordi, a demandé aux messes de la nuit de Noël et aux messes du jour de Noël d'inscrire dans la prière universelle une intention particulière pour le respect et la promotion de la vie humaine, hein, depuis sa conception jusqu'à sa fin naturelle. Et ben, nous avons tous, je crois, porter cette intention de prière avec une confiance suppliante, pour reprendre le terme de la déclaration dont nous parlions dans l'émission précédente. Oui, parce que c'est quand même un petit peu original que un droit ou une liberté exactement d'avorter.
Parce qu'il y a eu un changement de,
c'est ça, oui.
De terme.
À cause du Sénat. Mais cette liberté d'avorter qui n'est pas menacée en France, dans la mesure où on peut avorter encore très facilement, il y a trop facilement, hélas. Et vous savez qu'en 2022, on a battu tous les records, hein, de 230 000, je crois, avortements, alors qu'on est dans une moyenne de 220 000, qui fait de la France le champion d'Europe, quand même, hein, dans ce domaine. Et l'inscrire dans la Constitution, ça a beau être très formel, c'est, selon les termes même de Mme Elisabeth Borne, qui, à l'heure où nous parlons, n'est plus Premier ministre, c'est consacrer dans un texte fondamental de notre nation cette liberté d'avorter. Et avec un grand risque, c'est que la liberté de conscience, qui est reconnue également dans la Constitution comme quelque chose de sacré, risque d'entrer en concurrence avec la liberté d'avorter. Et comme vous le savez, un ensemble de médecins, de sages-femmes, s'insurgent en disant « et la clause de conscience ». Elle risque donc de disparaître et ça deviendrait une obligation d'aller contre sa conscience. Alors évidemment que l'Église ne peut pas admettre qu'on puisse consacrer dans la Constitution la liberté d'avorter, qui va sans doute un peu plus banaliser dans la société, du fait qu'elle a un degré d'approbation légale encore plus important, ça va banaliser encore ce geste qui reste toujours un drame. Il faut quand même rappeler que à peu près 70% des femmes qui ont recours à l'avortement le font à contre-cœur parce qu'elles sont confrontées à des difficultés d'ordre économique et social pour lesquelles la société ne les aide pas. Et on se demande pourquoi aujourd'hui la société, dont le système de santé est complètement délabré, comme on le sait, beaucoup de médecins aujourd'hui sont en grève à cause de ça, comme vous le savez, même si on n'en parle pas parce qu'on est dans le remaniement ministériel à l'heure où nous parlons là. Et donc il y a un enjeu quand même qui est très important, un enjeu de société très important.
Nous enregistrons cette émission le 10 janvier pour que nos auditeurs soient bien au fait du contexte dans lequel nous parlons. Alors, il y a cette loi aussi de fin de vie voulue par le président de la République. Il a annoncé lors de ses vœux que ça se ferait en deux temps.
Alors ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que, comme vous le savez, jusqu'à présent, ce projet de loi sur la fin de vie qui d'ailleurs est manifestement retardé. Il semble que le président de la République soit un peu mal à l'aise, finalement, avec ce projet de loi. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu quand même une levée de bouclier qui n'a pas été très médiatisée, même si elle l'a été quand même, non seulement des religions, hein, catholiques et juives en particulier, et musulmanes, bien sûr, mais il y a eu aussi une levée de bouclier des soignants. Hein. On se rappelle que, je pense que c'est en février dernier, 800 000 soignants représentant 13 associations de soignants, médecins, infirmiers, etc., ont dit leur désapprobation par rapport à ce projet d'aide à mourir, comme on le dit maintenant, qui inclut le suicide assisté et l'acte même d'euthanasie, qui va contre le soin, hein. Donner la mort n'est pas un soin, comme dit Mme Fourcade, qui est la présidente de l'Association française des soins palliatifs et qui est aussi montée au créneau, si vous voulez. Donc ce n'est pas seulement les associations catholiques, comme d'habitude, mais de manière beaucoup plus large. Et je pense que le gouvernement, moi je me rappelle, dans la petite rencontre brève que j'ai eue avec le président de la République, en marge de notre rencontre méditerranéenne à Marseille, lui avoir dit, Monsieur le Président, écoutez les soignants. Alors il m'a dit, oui, j'ai beaucoup de consultations, etc. Bon, nous travaillons avec Monsieur Moulin Beaufort. Et moi, j'étais en effet également surpris que lorsqu'il a présenté ses voeux aux représentants des religions en France, il a annoncé qu'il y aurait deux projets de loi. Vous savez aussi qu'il y a un ensemble de députés, il y a quelques mois, dont M. Vincent Bru, ici, dans notre diocèse, toutes... sensibilité politique confondue, je crois qu'il y avait même un communiste, qui avait écrit une tribune dans le Figaro pour dire qu'il fallait dissocier les soins palliatifs, dont nous avons déjà trois lois en France et une circulaire ministérielle qui ne sont pas encore complètement accomplies, et puis la loi sur la fin de vie. C'était quand même une très grosse ambiguïté que de faire voter en même temps sur les soins palliatifs et l'aide à mourir. Et donc c'est finalement, je pense que le président de la République a entendu, donc ce qui retarde encore un peu, puisqu'il va d'abord y avoir, je pense, si j'ai bien compris, un projet de loi sur les soins palliatifs, donc peut-être pour accélérer l'accès de tous, parce que ce n'est pas encore tout à fait vrai en France, et un deuxième projet de loi sur la fin de vie, sur lequel il faut encore être évidemment très vigilant.
Le 19 décembre, la loi immigration a été adoptée par les députés et sénateurs. Elle est maintenant, je crois, entre les mains du Conseil constitutionnel. Alors là aussi, on en parle beaucoup. Qu'est-ce que vous avez à dire, vous, sur cette loi ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Là, j'ai moins suivi sans doute les choses. Je sais que la Conférence évêque de France, quand même, a fait une déclaration hein, pour insister toujours sur, selon la vision du Saint-Père qui est souvent répétée, qu'il a répétée encore, je crois, auprès de ses vœux au corps diplomatique à Rome, qui est de dire, oui, sans doute, on ne peut pas empêcher les États à avoir une politique migratoire. Et je pense que les États européens et occidentaux, qui sont quand même aux premières lignes pour l'accueil des migrants, font le maximum. On ne peut pas empêcher une politique migratoire, ne serait-ce que pour des équilibres sociaux qui sont quand même très préoccupants aujourd'hui, en particulier en France, mais dans d'autres pays d'Europe. Et notre loi évangélique, qui est d'accueillir l'étranger, qui peut être menacé dans ses biens fondamentaux, et en particulier menacé dans sa vie, hein, quand on voit en effet les passeurs sans scrupules qui embarquent des migrants en Méditerranée, qui devient bien souvent pour eux un cimetière.
En passant justement, Vincent Bru a voté pour la loi immigration, le député. Monseigneur Hugues Moulin-Beaufort a déclaré que, selon lui, cette loi assimilait trop les étrangers à des délinquants. Est-ce que...
C'est possible, hein, c'est possible qu'il y a quand même une hyper sensibilisation dans la société d'aujourd'hui, car on est bien obligé de reconnaître que la criminalité est plutôt en progression, hein, malgré les satisfaits cheats que se donne le ministre de l'Intérieur actuel, et que
qui
c'est
ne
vrai...
Plus, d'ailleurs. Qui ne l'est plus d'ailleurs.
Ah, je ne sais pas. Mais il n'est plus puisque le gouvernement a donné sa démission. Mais il le sera peut-être à nouveau dans le prochain gouvernement. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a immanquablement accueillir des étrangers qui sont en situation de précarité ne pas arriver complètement à les intégrer peut provoquer en effet, peut-être davantage, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre sur tous les migrants le qualificatif de délinquant, ça c'est évident. Et il ne s'agit pas de stigmatiser, mais peut provoquer des phénomènes de tension. Et c'est vrai que statistiquement, on est obligé de reconnaître qu'une grande majorité de la délinquance est le fait de personnes qui sont étrangères ou d'origine étrangère.
Nous vous retrouvons dans quelques instants pour parler de la vie de notre diocèse.
Radio La Pourdire à Tia, 96.8 à Bayonne, 96.9 à Saint-Palais, 106.9 à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Nous terminons cette émission avec vous, Monseigneur Hayet, en parlant des événements diocésains à venir. Alors, nous sommes aujourd'hui le 10 janvier. Demain, vous allez prononcer vos vœux au clergé et puis le 20 janvier prochain au diacre permanent. Qu'est-ce que vous allez dire à votre clergé, si on peut le
savoir ? D'abord, je crois que cette journée, je la sens aujourd'hui comme, pour de ma part, un moment pour encourager les prêtres. Alors, les diacres, ce sera un samedi par après, mais d'abord aux prêtres, les encourager.
Vous les sentez découragés en ce moment ?
Je sens que quelquefois les prêtres ont été quand même un peu sur la sellette. Il y a eu évidemment toute l'affaire du rapport de la CIAS qui a quand même impacté le clergé, même s'il s'agit d'être très attentif aux victimes, car c'est là le premier objet que nous n'oublions pas dans notre pastoral aujourd'hui, même si on en parle un petit peu moins, et qu'il y a une minorité de prêtres, hélas trop importante, qui ont blessé et scandalisé gravement des enfants et des jeunes, le clergé était quand même très impacté pendant un certain temps. Et puis c'est vrai que les prêtres sont confrontés à des situations pastorales qui sont de plus en plus difficiles. La société est quand même assez hostile finalement à l'Église, au message de l'Évangile, même si les gens qu'ils rencontrent ne sont pas nécessairement hostiles, bien entendu. Il y a beaucoup d'inquiétude, de confusion aussi au sein de l'Église. Je pense que ce qui entoure Fiducia Supplicans, nous avons déjà parlé, révèle aussi ces confusions, ces divisions possibles, latentes. Et donc, je pense que les prêtres ont besoin d'être encouragés. Vous vous rappelez que dans mon livre, qui est paru en octobre dernier, Le Temps des Saints, il y a tout un chapitre sur les prêtres, sur le sacerdoce, qui avait pour but aussi de rappeler des choses élémentaires, fondamentales, qui de fait fondent l'identité du prêtre et sa mission. Et pour moi, évêque, c'est très important d'encourager les prêtres dans leur mission, parce que c'est eux qui sont aux premières lignes, et avec des moyens de moins en moins importants face à des situations qui sont beaucoup plus complexes qu'elles ne l'étaient il y a encore 20, 30, 40, 50 ans.
Et les diacres, qu'est-ce que vous allez leur dire ?
Les diacres, c'est pareil, je les encourageais dans leur service. Nous avons des candidats au diaconat aujourd'hui. J'ai le 13 novembre, j'ai admis comme candidat au diaconat permanent un paroissien de Cambeau, les Bains. Donc je pense qu'il y en a plusieurs qui sont en formation aujourd'hui. J'ai encore rencontré récemment...
Il y a combien de diacres aujourd'hui dans le diocèse ?
Ah, alors là, vous me posez
la colle. C'est la colle.
Il y en a un petit peu plus d'une douzaine, je pense. Et puis il y en a 4 qui sont en formation. Et peut-être d'autres qui s'annoncent. J'ai rencontré quelqu'un qui se sent appelé au diaconat et qui va peut-être entrer dans une période de discernement. Donc c'est important. Le diaconat a été institué pour avoir porté davantage le souci des plus pauvres dans l'Église, mais qui reste aussi lié par le sacrement de l'ordre, dont c'est le premier degré, à l'annonce de l'Évangile et au service de la liturgie.
Depuis le 26 novembre, selon votre vœu, nous sommes dans une année de la foi et de l'appel. Et là, donc, nous sommes à la première étape qui va se terminer avec l'entrée en carême. Là, il y a un événement important, c'est le dimanche de la parole. Donc, c'est un dimanche qui a été institué par le pape en 2019, je crois.
Oui, troisième dimanche du temps ordinaire.
Alors, qu'est-ce que vous attendez un peu de cette journée du dimanche de la parole ?
Alors, cette journée, elle est à l'initiative, évidemment, des communautés paroissiales, mais elle se veut être un petit peu la clôture et la récapitulation de la première étape qui a été vécue, je pense, de manière diverse sans doute, mais avec beaucoup de sérieux quand même, dans beaucoup de paroisses depuis le premier dimanche de l'Avent. Première étape qui, comme vous le savez, vous rappelez, était vraiment tournée, centrée sur l'écoute de la parole, lu en église, donc avec aussi la possibilité de catéchiser les adultes, mais l'écoute de la parole vécue en petite fraternité, parce que la foi naît de la parole, hein, de ce que l'on entend, comme dit saint Paul, et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ, donc il faut partager, et c'est l'Église qui nous transmet la foi. Hein, et l'Église, c'est la convocation, dans son étymologie, en tout cas en hébreu, Kaal, et ça veut dire donc que Dieu nous appelle à constituer son peuple. Donc la parole constitue aussi l'écoute de la parole ensemble, constitue l'Église. Donc c'est pour ça qu'on a recommandé que cette expérience se fasse en petite fraternité au sein de nos paroisses. Et j'ai ouï dire que beaucoup de paroisses, en tout cas, l'ont fait de manière diverse, à des rythmes différents. Et donc j'espère que cette journée qui se veut un dimanche autrement ou une récollection paroissiale permette aux curés de rassembler leurs fidèles et de partager l'expérience qui a été faite pendant toute cette première étape.
Alors avec le carême, ce sera le début de la deuxième étape, peut-être un mot pour...
Centré déjà... sur une plus grande intimité avec le Seigneur, la foi non plus seulement comme connaissance, si je puis dire, mais comme intimité avec le Seigneur, et donc elle sera centrée sur peut-être l'apprentissage ou le réapprentissage de ce qu'on appelle l'oraison, hein, ce colloque intime avec Jésus-Christ dont nous sentons aimés, comme dit sainte Thérèse d'Avila, qui est la grande docteur de l'oraison, hein, pour l'Église, et puis le combat spirituel. Le carême, étant un temps d'entraînement au combat spirituel. Je dis le pape parce que dans son exhortation apostolique Gaudete et...
Sur la sainteté.
Voilà, c'est ça, sur la sainteté et exultate, le cinquième chapitre est centré sur la question du combat spirituel.
Alors avec un peu d'humour, je voudrais vous soumettre un cas de conscience, puisque le mercredi décembre tombe cette année en 14 février, c'est aussi la Saint-Valentin. Alors qu'est-ce qu'il faut privilégier, Monseigneur ? Est-ce que c'est la journée du mercredi décembre avec jeûne et abstinence, ou est-ce que les couples vont quand même pouvoir faire bombance pour la Saint-Valentin ?
Alors moi je ne pense pas, parce que le 14 février c'est un des rares jours de jeûne et d'abstinence qui est recommandé dans l'Église, comme une prescription même. Donc je pense que j'invite les curés plutôt à célébrer la Saint-Valentin le dimanche qui précède.
Le 28 janvier prochain, nous aurons l'admission au sacerdoce d'un jeune séminariste du chemin néocatéchuménal, donc le séminaire Redemptoris Mater d'Anglette, Israël Antonio Escamilla Ramirez. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce jeune donc, qui va être admis au sacerdoce? Ça veut dire que c'est la première étape avant d'être ordonné.
Donc Israël est un jeune Mexicain qui a grandi dans une famille de 5 enfants, dont il est le quatrième. Dont les parents se sont un peu convertis dans le cadre du chemin néocatéchuménal. Donc lui-même, même si tous ses frères et sœurs ne sont pas dans le chemin, mais lui-même a écouté les catéchèses et ça a été très important pour son initiation chrétienne. Et il a senti un appel vocationnel au cours d'un pèlerinage qui l'a fait à Cancun, je crois, au Mexique. Et donc il a été tiré au sort, comme tous les autres, pour arriver dans le diocèse de Bayonne. Ça fait à peu près 7 ans hein, qu'il est chez nous, dans le sens où il a fait une première année et demie pour apprendre le français, puis ensuite les 2 ans de philosophie, 3 ans d'itinérance, comme il dit, c'est-à-dire de stage, un peu plus missionnaire, et puis il est entré au début de cette année pastorale en théologie. Voilà. Et donc il est admis comme candidat au sacerdoce, donc au cours d'un rite très simple hein, qui aura lieu à Sainte-Marie d'Anglette le dimanche 28 janvier.
Voilà, et puis concernant le séminaire des 5 cœurs de Jésus et de Marie, quelles sont les nouvelles ? Il y a des nouveaux propédeutes cette année ?
Alors il y a eu... Ah voilà, d'accord, donc le nombre n'est pas très important, hein. Il y a eu pas mal d'écrémages ces dernières années, mais c'est bon signe puisque le séminaire est aussi fait pour ça. Il faut que tout le monde discerne dans une grande liberté, et donc il y a 3 propédeutes cette année, dont un qui... et de Pau, et s'est décidé à cause des JMJ auxquels il a participé et le contact qu'il a eu avec les jeunes prêtres. Voilà.
Le 2 février, vous serez à Urte, chez les bénédictines à Belloc, pour la journée de la vie consacrée. Alors, cette journée avait été voulue par le pape Saint Jean-Paul II. Qu'est-ce que vous allez dire aux consacrés du diocèse de 2 février ?
Alors, surtout, ce qu'il faut noter, c'est que depuis quelques années, on avait un peu rompu avec cette belle tradition, pour une raison bien simple. D'abord, c'était le Covid, qui nous a quand même empêchés de nous rassembler. Et finalement, on a mis un peu de temps, comme dans pour beaucoup d'activités pastorales, à reprendre ce chemin. Et j'ai trouvé très important cette année que l'on puisse réunir à nouveau, en un même lieu, le 2 février, qui est cette journée mondiale de la vie consacrée voulue par Saint Jean-Paul II, non seulement pour célébrer la vie consacrée, qui a une importance fondamentale dans la vie de l'Église, mais aussi pour la promouvoir. Et permettre aux consacrés de partager leur expérience entre eux, ce qui est quand même très important pour s'encourager mutuellement. Sachant qu'il y a des communautés qui sont vieillissantes, qui sont inquiètes pour leur avenir, d'autres qui sont un peu plus jeunes et dynamiques, donc il faut que jeunes et vieux, comme dit le psaume, puissent se rassembler dans une même louange et dans une même consécration au Seigneur. Et donc on est heureux, je suis heureux de les rassembler à Urte, chez les bénédictines et donc maintenant aussi chez les bénédictins de Belloc, pour cette journée où il y aura un temps de conférence le matin par l'abbé Pierre Aramburu, que j'ai nommé récemment comme nouveau délégué diocésain à la vie consacrée. Et après la messe de la présentation avec les moines et les moniales, le déjeuner tiré du sac, et après moi je partagerai les nouvelles du diocèse. Donc ce sera l'occasion aussi de présenter mes vœux aux consacrés, toujours un petit peu dans le sens aussi de cette belle année de la foi et de l'appel qui les concerne aussi au premier chef.
Merci beaucoup Monseigneur Hayet, merci Violaine Ricourt-Dumas et merci à tous nos auditeurs.